André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage avec Agatha Christie. Après le meurtre de Roger Ackroyd, nous en arrivons à une autre aventure d'Hercule Poirot que nous allons suivre en compagnie de Muriel Murard. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Et Michel Lagouin. Bonjour.
Bonjour. Michel.
Merci de nous proposer vos lectures. Alors, Hercule Poirot doit abandonner son appartement de Mayfair et son chocolat matinal pour venir à la rescousse du savant atomiste Sir Claude Amaury. Black Coffee est la première pièce de théâtre d'Agatha Christie, adaptée par Charles Osborne, qui en a tiré un roman digne de La Dame du Crime, plein de mystères et d'un humour très british, publié pour la première fois au Royaume-Uni par HarperCollins le 2 novembre 1998 et aux États-Unis par St. Martin's Press le 31 décembre. Au début du roman, Hercule Poirot est chez lui en train de déguster son savoureux chocolat quand le téléphone sonne. À l'appareil, Sir Claude Amaury, savant atomiste, qui lui demande de l'aide car il a trouvé une formule révolutionnaire d'un nouvel explosif qu'il est en train de développer et soupçonne une personne de sa maison de tenter de la lui voler. Hercule Poirot décide de se rendre dans la résidence en compagnie de son ami, le capitaine Hastings. Et pendant ce temps, à la résidence Amaury, à Botcliffe, Sir Claude réunit pour un dîner tous les membres de sa famille. Michel nous présente le groupe. Voici un petit extrait du chapitre 2.
Quelques minutes plus tard, Sir Claude Amaury quitta son cabinet de travail, traversa la bibliothèque en direction du hall et rejoignit les autres dans la salle à manger de l'aile ouest de la maison. Il prit sa place au haut bout de la table, autour de laquelle les membres de la famille étaient déjà installés. À la droite de Sir Claude se trouvait sa nièce, Barbara Amaury, elle-même assise à côté de son cousin Richard, le fils unique de Sir Claude. À droite de Richard venait leur invité du dîner, un médecin italien du nom de Carelli. À la droite du médecin, à l'opposé de Sir Claude, était assise la sœur de ce dernier, Caroline Amaury, vieille fille d'une soixantaine d'années. C'était elle qui tenait la maison de son frère, l'épouse de Sir Claude étant décédée quelques années auparavant. À droite de Mademoiselle Amaury venait Edward Rayner, le secrétaire particulier de Sir Claude, puis Lucia, la femme de Richard Amaury, à côté du maître de maison.
Sir Claude révèle que la formule a déjà été volée et cette annonce suscite l'effarement général de l'Assemblée. Seul le docteur Carelli semble peu affecté par ce qu'il a entendu. Sir Claude trouve son café plus amer que d'habitude et informe le groupe de l'importance de sa découverte et de ses soupçons. Le voleur ne peut être qu'un membre de la maison, hormis les domestiques. Voici un deuxième et troisième extrait, lu par Muriel puis Michel. C'est le début du chapitre 5, après que le savant Sir Claude eut annoncé à ses invités la disparition de sa formule.
La pendule de la cheminée commença à égrener ses coups. Chacun les écouta dans un silence absolu. Sir Claude se tourna lentement dans son fauteuil et fixa son regard sur son fils Richard. Au dernier coup de 21h, les lumières s'éteignirent soudain et la pièce se retrouva plongée dans une obscurité totale.
La pièce resta dans les ténèbres. On entendit une profonde inspiration, puis des coups sourds frappés à la porte donnant sur le hall. Lucia cria de nouveau. Comme en réponse, toutes les lumières de la bibliothèque se rallumèrent soudain. Richard se tenait à présent à côté de la porte, apparemment incapable de décider s'il devait ou non tenter de l'ouvrir. Edward Rayner était debout à côté de sa chaise culbutée. Lucia était renversée contre le dossier de la sienne, comme au bord de l'évanouissement. Sir Claude, rigoureusement immobile dans son fauteuil, gardait les yeux clos. Rayner montra soudain du doigt la table à côté de son patron. « Regardez !» s'exclama-t-il. « C'est la formule, ça ne peut être que ça !» Sur la dite table se trouvait en effet une enveloppe oblongue telle que Sir Claude l'avait précédemment décrite. « Merci, mon Dieu !» s'exclama Lucia. « Merci, oh merci !» On frappa de nouveau à la porte du hall, qui à présent s'ouvrit lentement. L'attention générale y porta, tandis que Treadwell introduisait un étranger avant de se retirer. Les regards de chacun étaient braqués sur le nouvel arrivant. Il vit arriver un petit homme aux allures de dandy et à l'aspect hors du commun, qui, du haut de son 1,60 m à peine, affichait un air d'extraordinaire dignité. Son crâne avait exactement la forme d'un œuf, et comme un terrier à l'affût, il tenait la tête légèrement inclinée de côté. Sa moustache cirée était d'une rigidité impressionnante. Il était très élégamment vêtu d'un complet veston croisé anthracite, et pour un individu d'âge quasiment déjà mûr, ses cheveux étaient d'un noir qui ne pouvait manquer d'éveiller la suspicion. Il était escorté d'un homme plus grand que lui, entre deux âges d'allure martiale, qui portait un complet de tweed fauve et dont le visage avenant, ouvert, était orné d'une fine moustache en brosse. « Hercule Poirot, pour vous servir, » fit l'étranger en s'inclinant. « Et voici mon cher et éminent collaborateur et ami, le capitaine Hastings, qui a bien voulu venir avec moi de Londres ce soir. »«
Quelle ravissante bibliothèque !» remarqua Hastings, mondain. Richard Amaury s'avança à leur rencontre. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, » fit-il en leur serrant la main à tous les deux. « Sir Claude ?» demanda Poirot. « Ah non, vous êtes trop jeune. Bien sûr, son fils peut-être ?» Il passa devant Richard et gagna le centre de la bibliothèque, suivi de Hastings qui répéta. « Quelle ravissante bibliothèque, monsieur Amaury. Le temps en cette saison... » Richard prit le petit détective par le bras. « Effectivement, je suis Richard Amaury, le fils de Sir Claude. Je suis navré, monsieur Poirot, mais je crains que nous ne vous ayons fait venir sur un malentendu. Nous n'avons plus besoin de vous. » « Vraiment, Sankey Poirot ? Courtois, comme à l'accoutumée. » « Oui, je suis absolument désolé, » continua Richard. « Il est tout à fait regrettable que nous vous ayons fait parcourir tout ce chemin depuis Londres. Bien entendu, vos honoraires et vos frais de déplacement seront... aucun problème ne saurait surgir de ce côté-là, bien sûr. » « Je comprends parfaitement, » affirma Poirot, « mais pour le moment, ce ne sont ni mes honoraires, ni mes frais qui me préoccupent. »« Non ? Alors qu'est-ce qui me préoccupe, monsieur Amaury ? Je vais vous le dire. Ce n'est rien qu'un infime détail, sans conséquence, bien entendu, mais c'est votre père qui m'avait prié d'effectuer ce déplacement. Pourquoi n'est-ce pas lui qui me demande de repartir ?»« Oh, bien sûr, je vous prie de m'excuser, » fit Richard en se tournant vers Sir Claude. « Père, voudriez-vous expliquer à Monsieur Poirot que nous n'avons plus besoin de ses services ?» Sir Claude ne répondit ni ne bougea. Les yeux clos, il demeurait parfaitement immobile dans son fauteuil. « Père !» s'écria Richard en se précipitant vers lui. Il se pencha puis se retourna comme un fou. « Docteur Carelli !» s'époumona-t-il. Mademoiselle Amaury se dressa de toute sa hauteur, tel un fantôme blafard. Vif comme l'éclair, Carelli prit le pouls de Sir Claude. Il fronça les sourcils, lui posa la main sur le cœur et l'y laissa quelques secondes. Puis, l'air grave et relevant les yeux vers Richard Amaury, le médecin italien secoua lentement la tête. Poirot se dirigea vers le fauteuil et contempla le corps inanimé du savant. « Oui, oui, je crains que... » se murmura-t-il comme à lui-même. « Oui, je le crains fort. »« Mais que craignez-vous donc, monsieur Poirot ?» demanda Barbara en le rejoignant. Poirot la regarda sans ciller. « Que Sir Claude ne m'ait fait venir trop tard, mademoiselle. »
Le meurtre est constaté et on apprend que Sir Claude a été empoisonné dans son café noir, d'où le titre du roman, bien sûr. Ceci est confirmé par le docteur Graham. Poirot est maintenant confronté au défi de déterminer laquelle des autres personnes rassemblées à la résidence Amaury est le meurtrier. Il interroge toutes celles qui étaient présentes dans la bibliothèque la nuit du meurtre. Voici un extrait du chapitre 11, alors que Le docteur Graham a révélé la cause de la mort de Sir Claude. C'est au tour du mystérieux docteur Carelli de passer l'interrogatoire, lu par Michel et Muriel.
Treadwell entra en réponse au coup de sonnette de Poirot. « Vous m'avez appelé, monsieur ?»«
Oui, Treadwell.
Pourriez-vous, je vous prie, demander à ce monsieur italien, le docteur Carelli, d'avoir la gentillesse de venir jusqu'ici ?»«
Certainement, monsieur, » répondit Treadwell.
Le majordome quitta la pièce et Poirot se dirigea vers la table pour y prendre la boîte aux produits pharmaceutiques. « Il serait bon, je crois, » confia-t-il à Hastings, « de remettre ces médicaments si dangereux à leur place. De l'ordre et de la méthode avant toute chose. » Tendant la boîte en fer-blanc à Hastings, Poirot approcha une chaise de la bibliothèque et grimpa dessus. « Toujours cette soif de symétrie et de rangement, hein ?» s'exclama Hastings. « Mais je veux croire qu'en l'occurrence, vous avez une autre chose en tête. »
« Et quoi donc, Sancti Poirot ?»«
Je sais de quoi il retourne. Vous ne voulez pas effaroucher Carelli. Après tout, qui donc a manipulé ces produits hier soir ?»«
Lui, entre autres.
S'il les voyait en évidence sur la table, cela pourrait lui mettre la puce à l'oreille, n'est-ce pas ?» Toujours juché sur sa chaise, Poirot appliqua au capitaine une chiquenaude sur le sommet du crâne. « Finot, l'ami Hastings, hein ?» gloussa-t-il en lui prenant la boîte des mains. « Je vous connais trop bien, insista ce dernier, et ce n'est pas à moi que vous jetterez de la poudre aux yeux. » Tandis que Hastings prononçait cette phrase malheureuse, Poirot passa un index fureteur sur le fronton de la bibliothèque, ce qui souleva un nuage de poussière qui s'en vint retomber en pluie sur le visage levé de son ami. « En fait, de poudre aux yeux !» « Je crois que voilà servi très cher !» s'exclama-t-il en passant de nouveau délicatement son doigt sur l'étagère avant de le retirer avec une grimace. « Il semble que j'ai trop vite chanté les louanges de la domesticité. C'est plein de poussière là-dessus. Je regrette de n'avoir pas un bon chiffon humide pour enlever tout ça. »« Mon cher Poirot, » rit de bon cœur Hastings, « vous n'êtes pas femme de ménage. » « Hélas, non, » répondit tristement Poirot. « Le sort a voulu que je ne sois que détective. »« Oui, eh bien, il n'y a rien à détecter là-haut, alors redescendez. »«
Vous l'avez dit, il n'y a rien à... »
Poirot s'interrompit net et resta figé debout sur sa chaise, comme si la foudre divine l'avait changé en pierre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'impatienta-t-on Hastings. « Descendez !» Le docteur Carelli va arriver d'une minute à l'autre. Vous ne voulez pas qu'il vous trouve là-haut, n'est-ce pas ?
Vous avez raison, acquiesça Poirot en descendant lentement de sa chaise, le visage grave.
Mais enfin, que se passe-t-il ? Tempêta Hastings.
Il se passe que je viens de penser à quelque chose, répondit Poirot, le regard lointain.
Vous venez de penser à quoi ?
À de la poussière, Hastings.
« À de la poussière, » répéta-t-il, énigmatique.
Il n'avait pas plutôt achevé sa phrase que la porte s'ouvrit, livrant passage au docteur Carelli. Poirot et lui se saluèrent avec force Courbette et Salam Alek, chacun mettant par politesse un point d'honneur à s'exprimer dans la langue natale de son vis-à-vis. « Ah, monsieur Poirot !» commença Carelli dans son plus beau français. « Vous voulez me questionner ?»«
Si, signor dottore, se lei permette, » répondit Poirot.
« Ah, lei parla italiano ?»«
Si, ma preferisco parlare in francese. »
Dans ce cas, trancha Carelli, revenant aussitôt à la langue de Molière, « Que souhaitez-vous me demander ?»«
Dites donc, » tonna soudain Hastings, plus cockney que réellement oxfordien, « que diable signifie tout ce charabia ?»«
Ah, ce pauvre Hastings n'a rien d'un linguiste, je l'avais oublié, c'est mieux Poirot. Je crois que nous ferions mieux tous deux de nous cantonner à l'anglais. »«
Je vous demande mille pardons, il en ira comme vous le souhaitez, » consentit Carelli.
Il s'adressa à Poirot avec toutes les apparences de la plus grande franchise.
« Je suis heureux que vous m'ayez envoyé chercher, monsieur Poirot. Ne l'auriez-vous pas fait que j'aurais moi-même sollicité une entrevue ?»«
Vraiment ?» fit Poirot, lui désignant une chaise à côté de la table. Carelli s'installa pendant que Poirot s'asseyait dans le fauteuil et que Hastings prenait confortablement place sur le canapé.
Absolument, poursuivit le médecin italien. Car il se trouve que des affaires urgentes m'appellent à Londres. Je vous en prie, continuez, l'encouragea Poirot. Oui, évidemment, j'ai fort bien compris la situation hier soir. Un document précieux avait été volé, j'étais le seul étranger présent. Aussi ai-je volontiers accepté de rester pour permettre qu'on me fouille, voire même pour insister qu'on le fasse. L'homme d'honneur que je suis ne pouvait agir autrement. Tout à fait, convint Poirot, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est différent, répondit Carelli. Comme je vous l'ai signalé, des affaires urgentes m'appellent à Londres. Et vous souhaiteriez, par conséquent, pouvoir vous retirer. Tout juste. Cela semble, après tout, fort naturel, commenta Poirot. Qu'en pensez-vous, Hastings ? Hastings se garda bien de répondre, alors que son expression prouvait éloquemment qu'il ne trouvait pas cela naturel du tout. Peut-être qu'un mot de vous à M. Amaury, M. Poirot, réglerait la question, suggéra Carelli. J'aimerais éviter toute contestation. Mais bon, vos offices vous sont acquis, docteur, lui assura Poirot. En attendant, peut-être pourriez-vous m'aider à éclaircir un ou deux points de détail. Je ne serais que trop heureux de vous être utile. Poirot réfléchit quelques instants avant de poser sa première question. Madame Richard Amaury est-elle pour vous une amie de longue date ? De très longue date, répondit Carelli. Il poussa un soupir. Ce fut pour moi une délicieuse surprise que de la rencontrer de façon inopinée dans ce coin perdu. Inopinée, dites-vous ? Tout à fait, confirma Carelli en jetant un bref regard au détective. Tout à fait inopinée, répéta Poirot. Voyez-vous ça ? Une certaine tension s'était insinuée dans l'atmosphère. Carelli adressa un regard acéré à Poirot, mais ne releva pas. Vous vous intéressez aux dernières découvertes de la science ? Lui demanda ce dernier. Cela va de soi, je suis médecin. Ah, mais l'un ne sous-entend pas obligatoirement l'autre. Que vous soyez fasciné par un nouveau vaccin, un nouveau rayon, un nouveau virus, je le conçois sans peine. Un nouvel explosif, en revanche, est-ce vraiment là du ressort d'un docteur en médecine ? La science, sous ses multiples aspects, devrait nous intéresser tous, autant que nous sommes, insista Carelli. Elle représente le triomphe de l'homme sur la nature, à qui elle arrache ses secrets, en dépit de l'opiniâtre résistance qu'elle lui oppose. Poirot hocha la tête en signe d'acquiescement.
Lors de ces interrogatoires, Poirot sent bien que les suspects semblent cacher quelque chose. Il trouve des lettres écrites à Sir Claude et apprend que celui-ci a découvert le vol de la formule par accident. Il établit que Sir Claude était déjà empoisonné lorsqu'il a enfermé tout le monde dans la bibliothèque. Une clé est trouvée sous la chaise d'Edward Raynor, qui s'avère être la copie de la clé du coffre-fort de Sir Claude. Plus tard, Poirot interroge à nouveau Lucia, et apprend qu'elle est la fille de Selma Goetz, une espionne internationale décédée quelques années plus tôt. Lucia avoue que Carelli la faisait chanter et voulait qu'elle vole les documents, mais elle nie le vol du meurtre. Le vol et le meurtre. La clé a été fabriquée par Carelli afin qu'il puisse ouvrir le coffre-fort et voler les documents. Lucia prétend qu'elle a volé de l'hyoscine, mais pour elle-même, car elle avait l'intention de se suicider avant que Richard ne découvre son secret. Dans un accès d'hystérie, elle avoue avoir assassiné Sir Claude. Richard, croyant que Lucia a commis le meurtre, prétend qu'elle prend la faute sur elle. Mais Poirot lui révèle qu'aucun d'eux n'est coupable, et plus tard, il explique les faits à Hastings. Lorsque les lumières se sont éteintes, Lucia a jeté le double de la clé de telle manière que n'importe qui aurait pu penser que le voleur avait jeté la clé vers lui. Il note le bruit de déchirure de la robe, mais aucune des robes des membres n'a été trouvée déchirée. Il précise que ce n'est pas un tissu qui a été déchiré, mais du papier. Il révèle que dans un vase près de la cheminée, il y avait caché les restes de la formule déchirée. Et les deux amis remettent les morceaux dans le vase. Poirot s'approche petit à petit de la conclusion de son enquête avec l'aide d'un vieil ami de Scotland Yard, l'inspecteur Japp. Et nous en arrivons à la fin du récit, au chapitre 19, où notre fameux détective va révéler l'identité du coupable. Voici la totalité de ce chapitre, lu par nos deux comédiens.
À la vôtre, mon cher ami. Et maintenant, laissez-moi vous faire part de mes soupçons. Tout d'abord, je me suis aperçu que... Il s'interrompit soudain et tourna brusquement la tête comme s'il venait de surprendre un bruit. Jetant un regard d'abord à la porte, puis à Raina, il mit un doigt sur ses lèvres pour indiquer que quelqu'un était sans doute en train d'écouter. D'un hochement de tête, Raina montra qu'il avait compris. Les deux hommes s'approchèrent de la porte sur la pointe des pieds et Poirot fit signe au secrétaire de rester à l'intérieur. Il ouvrit le battant à la volée et bondit à l'extérieur, mais ce fut pour rentrer immédiatement, le front bas et la mine dépitée. « Bizarre, » confia-t-il à Raina. « J'aurais pourtant juré avoir entendu quelque chose. Bon, je me suis trompé. Voilà qu'il ne m'arrive pas si souvent. À votre santé, mon ami. » Il vida le contenu de son verre. « Ouf !» s'exclama Raina avant de boire à son tour. « Je vous demande pardon ?» interrogea Poirot. « Rien, je me sens soulagé, c'est tout. » Poirot s'approcha de la table et posa son verre. « Vous savez, monsieur Raina, confessa-t-il, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me suis jamais vraiment habitué à votre boisson nationale, le whisky. Ce goût ne me plaît guère. C'est amer. » Il alla s'asseoir dans le fauteuil. « Vraiment ?» s'étonna Raina. « Vous m'envoyez navré. Amer, le mien ne l'est pas du tout. » Il posa son verre sur la table basse et continua. « Je crois que vous étiez sur le point de me dire quelque chose à l'instant. » Poirot parut s'arracher à un songe. « Moi, qu'est-ce que cela pouvait être ? Aurais-je déjà oublié ? Il est possible que j'aie souhaité vous expliquer comment je procède dans mes enquêtes. » « Comment fais-je à propos ? Oui. C'est cela. Un fait avéré, voyez-vous, me mène à un autre et je remonte la piste. Ce fait nouveau peut-il s'intégrer au reste ? Oui. À merveille. Parfait. Je suis en mesure de poursuivre. Et ce petit détail-là, non ? Tiens, c'est curieux. Il manque quelque chose. Un maillon de la chaîne. J'examine, je pèse le pour et le contre. Je cherche. Et ce petit détail bizarre, ce fait peut-être dérisoire qui ne veut pas cadrer, je le mets là. » Poirot fit un extravagant geste de la main.
« Et il devient significatif, ce petit détail dérisoire. Il devient énorme. Oui, articula Raynor d'une voix dubitative. » Poirot agita son index si frénétiquement devant le visage du secrétaire que celui-ci recula presque. « En revanche, attention, malheur au détective qui décrète « Il est tellement petit ce détail, peu importe qu'il ne cadre pas, oublions-le. C'est le meilleur moyen de se tromper. Tout a de l'importance. » Poirot s'arrêta soudain et se frappa le front. « Ah, je me souviens maintenant de quoi je voulais vous parler. D'un de ces petits détails dérisoires. « Je voulais vous parler de poussière, monsieur Raynor. » Celui-ci eut un sourire poli. « De poussière ?»« Exactement, de poussière, » répéta Poirot. « Mon ami Hastings me rappelait, il y a peu, que je suis détective et pas femme de ménage. Il se croyait très futé de faire une telle distinction, mais je ne partage pas son avis. Une femme de ménage et un détective ont après tout nombre de points communs. À quoi s'échine la femme de ménage ? À explorer tous les recoins sombres avec son balai. Elle ramène au grand jour toutes les petites crasses et saletés cachées qui ont opportunément glissé hors de vue. Le travail du détective n'est-il pas très voisin ? Fort intéressant, monsieur Poirot, parvint à articuler Raynor en dépit de son ennui apparent. Il approcha la chaise de la table et s'assit. Est-ce là tout ce que vous vouliez me dire ? Pas tout à fait, avoua Poirot. Il se pencha en avant. « Vous ne m'aviez pas jeté de poudre aux yeux, monsieur Raynor. Vous ne m'avez pas aveuglé avec de la poussière. Et ceci pour l'excellente raison qu'il n'y a pas de poussière. Vous comprenez ?» Le secrétaire le fixa intensément. « Pas très bien, non. Il n'y avait pas de poussière sur cette boîte de produits pharmaceutiques. Mademoiselle Barbara me l'a fait remarquer. Or, il aurait dû y en avoir. L'étagère du haut sur laquelle elle est rangée, il la lui montra du doigt en parlant. « Cette étagère en est couverte d'une épaisse couche. C'est là que j'ai su... »« Que vous avez su quoi ?»« que quelqu'un avait descendu cette boîte récemment, continua Poirot, que l'assassin de Sir Claude n'avait pas eu besoin de s'approcher des produits hier soir, puisqu'il s'était servi à loisir auparavant, à un moment où il savait qu'il ne serait pas dérangé. Vous ne vous êtes pas approché de la boîte hier, parce que vous n'aviez déjà pris la scopolamine qu'il vous fallait. En revanche, le café, vous l'avez bel et bien eu entre les mains, monsieur Raynor. Le secrétaire eut un sourire patient. Grand Dieu ! Vous m'accusez d'avoir assassiné Sir Claude ! Niez-vous l'avoir fait, lui rétorqua Poirot. Raynor prit un temps avant de répondre. Quand il parla, ce fut avec, dans la voix, une dureté nouvelle. Oh non, je ne le nie pas. Pourquoi le ferais-je ? Je suis plutôt satisfait de la manière dont j'ai mené ma petite affaire. Mon plan aurait dû se dérouler sans accroc. C'est la malchance seule qui a voulu que Sir Claude rouvre son coffre hier soir. Il ne l'avait jamais fait par le passé. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» demanda Poirot sur un ton assoupi. « Pourquoi ne le ferais-je pas ? Vous m'avez tellement... Pardon. Vous m'êtes tellement sympathique. C'est un plaisir que de bavarder avec vous. » Il rit et continua. « Oui, les choses ont failli mal tourner. Mais c'est de cela que je tire fierté, d'avoir transformé un échec en succès. »
Une expression de triomphe se peignit sur son visage. Trouver ainsi de but en blanc une cachette, ce n'est pas à la portée du premier venu. Vous voulez que je vous dise où se trouve la formule en ce moment ? Sa somnolence paraissant s'accentuer, Poirot montra de la difficulté à s'exprimer clairement. Je ne vous comprends pas, murmura-t-il. Vous avez commis une bévue, monsieur Poirot, fit Rainer avec un rictus de mépris. Vous m'avez sous-estimé. Je ne me suis pas laissé prendre tout à l'heure à votre ingénieuse diversion sur ce pauvre minable de Carelli. Un homme de votre intelligence ne pouvait pas sérieusement imaginer que Carelli... Allons, ça ne tenait pas debout. Moi, voyez-vous, je ne joue que gros jeu. Ce morceau de papier porté où il faut, c'est 50 000 livres pour moi. Il s'appuya au dossier de la chaise. Imaginez ce qu'un homme de ma trempe peut faire avec 50 000 livres. Je préfère ne pas y penser, parvint à articuler Poirot d'une voix de plus en plus pâteuse. Peut-être, en effet. Je comprends ça, conseda Raina. Chacun son point de vue. Poirot se pencha en avant et parut faire un effort pour se ressaisir. Ça ne se passera pas. « Comme ça, haleta-t-il. Je vous dénoncerai, moi, Hercule Poirot. » Il s'interrompit soudain. « Hercule Poirot ne fera rien du tout, » articula Rainer, tandis que le détective s'affaissait en arrière dans son fauteuil. Il poursuivit avec un rire qui était presque un ricanement. « Vous ne vous doutez de rien, hein ? Même quand vous avez trouvé le whisky amer. Vous voyez, mon cher monsieur Poirot, je n'avais pas seulement pris un, mais plusieurs tubes de scopolamine dans cette boîte. Vous en avez avalé autant, sinon plus, que Sir Claude. Mon Dieu ! S'étrangla Poirot en se débattant pour se lever. Hastings ! Sa voix, déjà affaiblie, s'estompa tout à fait. Il retomba dans son fauteuil. Ses paupières se fermèrent. Rainer se remit debout, poussa sa chaise de côté et vint se placer au-dessus de Poirot. « Essayez de rester éveillé, monsieur Poirot. Je suis sûr que vous aimeriez savoir où la formule est cachée, n'est-ce pas ?» Il attendit un instant, mais les yeux du détective demeurèrent clos. Un assoupissement rapide, suivi d'un sommeil sans rêve, mais dont vous ne vous réveillerez pas, comme le dit si bien notre cher ami Carelli, commenta sèchement Rainer en allant vers le manteau de la cheminée. Il prit les allumettes en papier, les plia et les mit dans sa poche. Puis il se dirigea vers la porte-fenêtre, ne s'arrêtant que pour lancer par-dessus son épaule « Au revoir, cher monsieur Poirot !»
Il allait sortir dans le parc lorsque la voix de Poirot, joviale et naturelle, l'arrêta net. « Ne souhaiteriez-vous pas également l'enveloppe ?» Raynor pivota sur lui-même. À ce moment précis, l'inspecteur Japp arrivait du jardin. Le secrétaire recula de quelques pas, hésita un instant, puis opta pour la fuite. Il se rua vers la porte-fenêtre, juste pour se faire cueillir par l'inspecteur et par Johnson, qui apparut soudain sur le seuil. Poirot se leva de son fauteuil et s'étirant. « Eh bien, mon cher Japp, demanda-t-il, vous avez tout entendu ?»« Jusqu'au moindre mot, grâce au billet que vous m'avez fait parvenir, Poirot, répondit le policier qui ramenait de force Raynor au milieu de la pièce avec l'aide de Johnson. « On entend parfaitement bien depuis cette terrasse-là, à deux pas de la porte-fenêtre. Maintenant, voyons un peu ce que nous pouvons trouver sur lui. » Il sortit les allume-feux de la poche de Raynor et les jeta sur la table basse. Puis un petit tube. Et voilà, scopolamine, vide. Ah, Hastings, s'écria Poirot pour saluer l'entrée de son ami qui arrivait par la porte du hall en portant un verre de whisky soda qu'il tendit au détective. Vous voyez, fit-il à Raynor avec la plus grande amabilité, je n'ai pas marché dans votre petite comédie. Vous, en revanche, vous avez foncé tête baissée dans la mienne. Mon message donnait mes instructions à Japp et à Hastings. Après quoi, je vous ai tendu la perche en me plaignant de la chaleur. Je savais que vous me proposeriez un verre. Vous n'attendiez qu'une occasion. Ensuite, tout a marché comme sur des roulettes. Quand je suis allé à la porte, mon brave Hastings attendait dehors avec un autre whisky soda. J'ai changé de verre et je suis revenu. Et en avant pour la grande scène du 3 ! Il rendit le verre à Hastings. Pour ma part, je ne suis pas réellement mécontent de la façon dont j'y ai tenu mon rôle. Il y eut un silence pendant lequel Poirot et Raynor se jaugèrent du regard. Puis le secrétaire parla. J'ai eu peur de vous dès que vous avez mis le pied dans cette maison. Mon plan aurait pu fonctionner. J'aurais pu assurer le restant de mes jours avec les 50 000 livres. Peut-être même plus que j'aurais obtenu en revendant cette maudite formule. Mais après votre arrivée, je n'ai plus jamais été sûr de m'en tirer pour le meurtre de ce vieux fou pontifiant et pour le vol de ce précieux morceau de papier. Je vous ai déjà fait remarquer que je vous trouvais intelligent, répliqua Poirot, qui se rassit dans son fauteuil, l'air manifestement satisfait de lui-même. Edouard Raynor énonça rapidement Japp. Je vous arrête pour homicide volontaire sur la personne de Sir Claude Amaury, et je vous avertis que tout ce que vous direz désormais pourra être retenu contre vous. Et il fit signe à l'agent Johnson de l'emmener.
La pièce sur laquelle est basée la novélisation d'Osborne a été filmée en Angleterre sous le titre de Black Coffee en 1931, moins d'un an après sa première mise en scène à Londres. Le film est sorti le 19 août 1931 par Twickenham Film Studio et a une durée d'un peu moins de 80 minutes. Julius S. Hagan l'a produit avec Austin Trevor, qui a joué le rôle de Poirot. Trevor est également apparu dans le rôle de Poirot dans le film Alibi de 1931, qui a été réalisé par le même studio quelques mois avant Black Coffee. Alibi a été la première version à l'écran de la célèbre histoire de Christie, le meurtre de Roger Ackroyd dont nous avons parlé dans une précédente émission. La pièce Black Coffee a été filmée une deuxième fois, cette fois en France, par les établissements Jacques Haïck. Le film est sorti sous le titre « Le coffret de Lac » le 13 juillet 1932 et à l'international sous le titre « The Lac Red Box ». Merci Muriel, merci Michel pour ces belles lectures. On espère vous retrouver bientôt pour d'autres aventures. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « Espérer, c'est toujours continuer à aimer et à croire ». Elle est bien sûr d'Agatha Christie. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fntta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.